Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême sur le stand de Arsenic et Boule de Gomme pour parler avec Elian Blackmore et Karine M de Wild West Dragons, quatrième tome. Bonjour.
Bonjour L'Autre Monde.
Bonjour L'Autre Monde.
Un ouvrage qui nous emmène cette fois du coup de l'Angleterre jusque
en
Amérique,
oui.
Au sens large.
Oui.
Vous êtes revenu en forme, on peut dire ?
Enfin, un voyage comme ça, c'est compliqué, mais ouais, j'ai quelques blessures, mais ça va, j'ai pas trop morflé, quoi, en fait. Je suis revenu vivant, on va dire. Mais le voyage n'est pas terminé, c'est qu'une partie du voyage. En fait, le voyage sera bien plus long aux États-Unis, en fait. Là, pour l'instant, on n'a qu'une toute petite partie des choses qui sont à découvrir, qui sont découvertes, et il va y en avoir d'autres d'ici très peu de temps.
Ce voyage-là, donc là on en a une partie seulement sur ce volume 4. Sinon, le voyage va durer combien de temps pour la partie américaine ?
Elle va durer, si on le découpe en tomes, elle va durer sur 3 tomes. Elle va durer, j'ai pas encore tout à fait mémorisé la temporalité, mais si on veut vraiment parler du récit, elle démarre vraiment au moment où le western est fini, enfin le Far West, la conquête de l'Ouest se termine. Les voitures commencent à arriver à New York, il y a des chapeaux melons même dans le désert, et il y a des Pinkerton, surtout les Pinkerton, c'est sacré Pinkerton. Donc là, le voyage débute début 1900, à mon avis, généralement chaque album se déroule sur une année à peu près, donc on pourrait dire qu'il va aller jusqu'à 1900-1903, il va durer 3 ans, voire plus. C'est un peu le problème avec les dragons oubliés, on sait par où on arrive, mais on sait pas trop par où on en ressort. Ni comment. Enfin, moi, je sais, mais il y aura peut-être des détournements le long de la route. Donc, je dirais 3 ans.
On est parti sur un nouvel arc, puisque le départ, si on peut parler de départ, ça pourrait être donc sur la piste des dragons. Après, il y a les maudits, et maintenant, on part sur Wild West Dragons. Cette dimension américaine, c'était quelque chose qui manquait vraiment après l'exploration européenne.
Oui, en fait, la dimension américaine, ça fait un moment. Hein. Je suis vraiment un grand fan de la première heure des western spaghetti. Et je suis aussi un fan de fantastique en général, et pas de fantasy, mais vraiment de fantastique, de quelque chose de plus sombre, de plus mystique. Et curieusement, j'ai aimé le Blueberry de Ian Coonan, en fait, qui était vraiment un peu perché par rapport à... Mais j'ai vraiment bien aimé cette partie, justement, le chaman. Et ça m'a toujours fasciné, en fait. Quand on jouait aux cowboys aux Indiens, je préférais me mettre du côté des Indiens que des cowboys, quoi. Donc, du coup, j'ai toujours voulu travailler là-dessus. Et au fur et à mesure, ça m'est devenu une évidence, en fait, de travailler sur le territoire américain. Un petit peu à cause de Pierre Dubois, finalement, parce que Pierre arrêtait pas pendant les fantômes de me dire « Ouais, Wakatanka est grand, que Wakatanka t'accompagne, Elian !» Je dis « Bon, au bout d'un moment, et c'est qui Wakatanka ?»« Mais c'est le dieu des Indiens !» Ouais, d'accord, ok, bon, mais c'est cool. Alors je me suis dit « Tiens, je vais faire un truc sur Western, on va travailler sur le dieu des Indiens, Wakatanka, il a l'air grand, justement, comme c'est le dire Pierre. » Et en fait, j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que, bah, comme Pierre est un bon conteur, quelque part, c'est aussi un bon menteur, mais pour la manière positive, c'est qu'effectivement, il m'a emmené sur la voie des Sioux, puisque Wakatanka est le dieu des Sioux, si je me mélange pas tout, mais quand on se met à soulever toutes les couches du millefeuille amérindien, enfin, des peuples premiers, on se rend compte que les Apaches vénèrent Yusne, que les Creeks et les Apaches vénèrent Sintolo, que l'Amérique du Sud vénère le serpent à plumes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et qu'à chaque tribu a sa divinité. Donc ça devient fascinant. Et ce qui m'a vraiment happé, et Karine l'a vu, celui-là, le voyage, il a commencé même bien avant, parce que j'ai pris vachement de temps dans la doc, je me suis perdu pratiquement. J'ai trouvé des trucs fascinants. Au début, il devait y avoir un tome, et du coup, on est déjà passé sur trois, enfin, on est prévision de 3 tomes. C'est qu'autant dans Les Dragons Oubliés, j'ai suivi une route qui était la mienne, en fait, où j'ai imaginé un voyage fantastique rencontrant des créatures disparues que personne ne connaissait, hormis une ou deux. Et là, je me suis pris d'amour pour les Indiens. Enfin, je l'avais déjà, mais je l'ai vraiment développé. Et finalement, j'ai attribué un dragon à chaque tribu, enfin, à chaque ethnie, et chaque dieu étant représenté par une créature. Et c'est devenu assez fascinant. J'ai eu des problèmes avec les Apaches, parce qu'effectivement, normalement, les Apaches, il semblait, au niveau des textes, qu'ils avaient un problème avec le serpent. Donc du coup, j'ai rebondi sur un animal avec à 4 pattes avec des ailes et des cerfs. Et étonnamment, j'ai un ami qui est archéologue qui m'a dit « Ouais, génial, t'as fait le cerf ailé des Apaches !» Je dis « Bon, le cerf ailé des Apaches, tu peux me la refaire à l'envers ?» Il me dit « Bah oui, les Apaches vénèrent le cerf ailé. » Donc là, du coup, on a rebondi comme quoi on avait tous finalement une mémoire collective sur les mythes. Et voilà, donc de fil en aiguille, ça s'est bâti. Et comme j'avais déjà créé, on avait déjà rencontré les méchants, enfin les méchants, j'arrive pas à leur trouver un autre mot, mais... Les forces opposées dans les maudits, je les ai intégrées dedans et elles sont parties à la poursuite de mon homonyme de papier. Donc il y a eu une course-poursuite et un compte à rebours qui s'est enclenché pour libérer une créature. Mais là, je peux pas vous en dire plus, sinon le Wild West, il est foutu, quoi. Voilà.
C'est plaisant du coup de mélanger réel et fiction dans ce Wild West Dragons, puisque justement il y a quelques éléments factuels. Mal, ouais, en fait, ouais. Justement les Pickerton, enfin voilà, ça fait partie de l'histoire, on va dire. Tout ce qui se passe comme magie vaudou, justement sur la Nouvelle-Orléans et toute cette zone-là, c'est quelque chose encore de très présent, oui, actuellement. Ouais. Et de rajouter justement votre imaginaire au point de coller, comme vous le disiez, à finalement une réalité et peut-être justement un imaginaire collectif. C'est plaisant de voir que finalement tout se raccroche en fait comme une espèce de puzzle qu'on n'avait pas forcément imaginé aussi grand.
C'est super étrange parce qu'en fait, plus j'ai avancé dans mes recherches sur les Wild West Dragons, plus j'étais mesminé. Mais c'est pas possible. C'est en fait il y a les Pinkerton. Le vaudou, j'ai eu la chance de pouvoir contacter le musée vaudou de Strasbourg, qui est en fait un musée d'art africain, puisque le vaudou est avant tout une religion d'Afrique et non pas une religion de la Nouvelle-Orléans. Elle est juste venue à la Nouvelle-Orléans, malheureusement, avec l'esclavage. Et les esclaves, pour se protéger, ont transformé. En ayant discuté un petit peu avec le musée de Strasbourg, on se rend compte que le vaudou d'Afrique et le vaudou d'Amérique, d'Haïti, il n'est pas le même, en fait, parce qu'il y a eu une protection des esclaves en transformant leur divinité par des divinités chrétiennes. Donc du coup, j'ai pu vachement échanger avec le musée vaudou. Les graines qui sont, les plantes qui sont utilisées dans le livre viennent du musée vaudou de Strasbourg. On me les a envoyées. J'ai écouté ce que disait le vaudou d'Afrique pour créer le poivre de Guinée qui sert à activer les objets. Il faut cracher trois fois dessus. Et j'ai imaginé des sorts que Blackmore pouvait faire avec ces épices-là. Et ce qui est vachement fascinant, c'est qu'au fur et à mesure où je cherchais, je voulais à tout prix des hors-la-loi, mais des hors-la-loi classe, enfin, genre des hors-la-loi dont on est fier. Du coup, en fait, en faisant les recherches, j'ai trouvé, enfin, je suis parti sur la piste par rapport aux dates des Butch Cassidy et Sundance Kid, et surtout une troisième personne qui s'est rajoutée, qui était mythique, et qui est vraiment mythique, qui s'appelle Etta Place, qui est la femme du Kid. Et Etta Place, en fait, elle apparaît dans les livres d'histoire, il la croise sur la route, elle devient la femme du Kid. Dans toutes mes recherches, même l'agence Pinkerton, on sait qu'elle existait, puisqu'il existe une photo que vous allez voir dans le tome 2. Il existe vraiment une photo du Kid et de sa femme, mais elle a disparu des radars à un moment. On n'a jamais trop su si elle était hors la loi, si elle était institutrice. Tout ce qu'on sait, c'est quand ils ont terminé à Cholula, elle a disparu. Même eux-mêmes, quand on fait des recherches, qu'on lit des trucs, des coupures sur Internet et tout, on ne sait même pas si le Kid et Butch se sont fait dessouder à Cholula, donc là où normalement ils sont morts. Il semblerait que dans la tombe ce soit pas eux, et des personnes diraient qu'ils les ont revus à New York. Donc c'était tellement sulfureux que je me suis dit c'est pas possible, ça faut que j'intègre. Ce qui a finalement réorienté ma route sur l'Amérique du Sud, parce que je voulais à tout prix les avoir dans l'histoire. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est par j'adore l'histoire dans l'histoire, et au fur et à mesure, je brode mon histoire, en fait.
Le choix de présenter des carnets avec des photos, on a presque envie, en fait, que l'ouvrage fasse peut-être 20 cm de haut et d'avoir vraiment, en fait, les plantes à l'intérieur, que ce soit un vrai herbier. Vous vous faites un petit plaisir chez vous, genre vous le lavez, cet herbier-là, et du coup, vous l'organisez comment pour justement intégrer après ça sur un ouvrage à plat.
Bah, il est décomposé par les images, mais c'est vrai que les plantes, les feuilles, elles ont vraiment séché. En fait, c'est pas des trucs comme dans les Dragons oubliés. Hein, la drosera. Alors la drosera, j'avais de la chance, elle était déjà séchée parce que j'avais eu droit à accéder aux herbiers de la Tête d'Or à Lyon. Donc j'avais pu les scanner, mais je veux toujours du véridique dans l'album, donc j'essaye de m'en approcher le plus possible. Et les graines, bah, c'est celles qu'on m'a données, donc je les ai aplaties. Les feuilles qu'on voit, c'est vraiment des feuilles que j'ai fait sécher. Je voulais même rajouter le lys vaudou qu'on a à l'intérieur, et j'en ai un à la maison, qui m'a jamais donné de fleurs, parce qu'il paraît que la fleur sent le cadavre, en fait. Elle est magnifique, mais elle sent le cadavre au moment de sa floraison. Et après, il y a la feuille qui est assez, comme je l'ai décrit dans l'album, qui est assez étrange. Alors la vraie n'a pas de dents. Je laisserai découvrir dans l'album la mienne, mais j'ai fait sécher, mais elle était trop grande et je trouvais que là c'était dommage d'en mettre une grande. Enfin, mais je l'ai fait sécher à la maison. Il y a des plantes qui sèchent à la maison. Et la plupart des éléments, mais même dans les dragons oubliés, la couverture du tome 3 de souvenirs, je l'ai fabriqué réellement avec les cordes pour parce que j'aime utiliser. Je suis auteur numérique, mais j'aime utiliser le réel quand il doit être réel, en fait. Voilà.
auteur numérique, mais en même temps, sur Wild West Dragons, comme c'était dit avant l'interview, ouais. Il y a aussi de l'aquarelle à l'intérieur.
Ouais, ça c'est mon amour premier. Je suis un grand amateur de Hugo Pratt, en disant, attention, je dis pas que je dessine comme lui, mais je dis juste que je suis un grand amateur d'Hugo Pratt et de Cortot et des aquarelles de Pratt. Et j'avais vraiment envie de travailler une aquarelle très liquide, très diluée, en essayant de me rapprocher, mais de très très loin, de ce que pouvait faire Pratt. Et j'ai eu la chance de trouver un papier qui gondole pas, parce que c'était important pour les scans après derrière et le traité. Donc j'ai pu faire mes grandes aquarelles en A3, en liquide, en direct. Ça m'a fait énormément de bien, parce que j'en avais un peu marre de travailler sur écran, d'être courbé, à jamais savoir si la couleur est bonne ou pas. Là, j'avais envie d'un truc tout naturel. On sort en pinceau, on sort de l'eau et on fait une aquarelle. Donc oui, c'est un peu la première fois qu'il y a autant d'aquarelles dans l'album. Avant, il y avait des cartes, des petits détails, mais là, je voulais vraiment qu'on ait un mix des deux, en fait.
Et le travail, du coup, à quatre mains, il se fait aussi bien sur le texte que sur l'illustration, ou chacun a sa partie, page pair pour l'un, page impair pour l'autre, ou c'est plus compliqué que ça, bien évidemment, mais...
Sur celui-ci, ça a été un peu différent. Ça a été un peu différent parce que Carrie a aidé à démarrer sa série Spooky et devant s'occuper de sa princesse. Du coup, elle m'a surtout aidé sur le rebondi de scénario et la relecture du scénario en pointant là, on ne comprend pas, Coco, reviens en arrière, explique-nous ce que ça raconte parce qu'on est perdu. Donc c'est ma véritable éditrice, elle est là, quoi, en fait, à me serrer la vis dans tous les sens.
Non, c'est facile, un petit peu plus neutre à ce moment-là, donc comme tu fais sur mes histoires, là c'est vrai que oui, j'ai un petit peu plus donné mon avis sur le texte, enfin sur les autres aussi, mais là c'était encore nouveau comme histoire et il y avait des choses que j'avais remarquées et c'est vrai, du coup j'ai dû le lui dire.
Elle m'a beaucoup
souligné en rouge, alors ça, faut revoir ça. Une longue liste.
Elle m'a énormément accompagné sur la mise en page, sur la partie vaudou aussi, parce qu'elle a réussi à prendre la main de Mama Legba et faire la notice de Mama Legba. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, parce que je voulais à tout prix une notice écrite par une sorcière vaudou. Et je voulais vraiment qu'on sente la main à une autre écriture, donc je ne pouvais pas le dessiner moi-même. Comme pour les peintures rupestres, moi j'en avais fait une esquisse, j'avais fait une compo, et c'est Karine qui me l'a refaite, parce que je voulais vraiment qu'une autre écriture, et du coup elle m'a réinterprété encore mon travail. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement extraordinaire, en fait. Donc voilà, là, sur celui-ci, t'es un petit peu particulier et je voulais vraiment plonger un peu tout seul dans l'aventure. Et après, Karine est venue me taper sur les doigts quand j'écrivais trop de travers et elle a finolé les trucs tout dégueulasses à faire, les notices, les photos, la mise en page, ainsi de suite.
C'était important d'avoir quelques étapes sur le voyage, c'est-à-dire qu'on part d'Angleterre, donc ça commence vraiment en Angleterre avec les Ondines, ouais. Après il y a une rencontre, on va dire, sur la traversée, ouais. Et après on chemine, donc il y a des vampires sur la partie américaine, etc. Pour autant, les dragons sont présents tout le temps.
Oui, tout le temps. Mais
il y a plus que des dragons finalement Dragons.
Wild West Dragons, il y a beaucoup plus que des dragons. Il y a à peu près tout ce qui me fait rêver. Enfin, de toute façon, tous les voyages que je fais, je les conçois comme ça, en fait. Et le triangle des Bermudes, c'est trop la classe, quoi, de passer par le triangle. En plus, vu qu'on habite maintenant en bord de mer, et que nos voisins ont été dans la marine, le père était mécano dans la marchande, et le fils était capitaine de porte-container, donc avoir des renseignements sur la mer et sur le triangle, c'était facile. Donc j'ai vraiment eu des vraies réponses sur le phénomène du triangle, on va dire, météorologique, qui était vraiment très intéressant. Et après, ouais, les vampires, la Nouvelle-Orléans, c'était bien, mais en plus c'est bizarre parce que d'habitude chez moi les créatures fantastiques sont toujours positives, c'est l'homme qui est dangereux, c'est l'homme qui est mauvais, et là les vampires sont du côté des hommes, mais il y a une vraie raison à ça qui est expliquée dans le récit, et moi je développerai la vraie raison de cette engeance étrange dans les récits qui vont suivre, mais je voulais faire des vampires, puis je voulais un petit peu, comme avait dit de souvenir, je crois bien que c'est Stephen King qui a dit sur le American Vampire en citation un truc qui est très vulgaire mais qui représente exactement l'image du vampire. Je suis désolé pour les auditeurs, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est King. C'est le mythe du vampire a été vachement transformé. Bon, à part Jarmusch qui a fait un truc exceptionnel sur Only Left Blood Up, je me rappelle jamais du titre.
Only Lovers Left Alive.
Mais en louant Jarmusch, parce que Jarmusch étant un de mes dieux, on va dire que Stephen King a fait un vrai premier scénario sur American Vampire et revenu aux sources du vampire, c'est comme il le dit, c'était toi et Sus, en fait. C'était ça. Et c'est très vulgaire, mais c'est très rock, c'est très américain. Et c'est vraiment le mythe du vampire, c'est violent, c'est sauvage, c'est un chasseur. Et je voyais, pas d'autre manière d'intégrer le vampire que comme ça, en fait, pour lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse, quelque chose de sauvage. Mais elle est vulgaire, hein, la phrase, hein, je maintiens, hein, j'ai pas fait exprès, mais il l'a dit. Mais elle est réelle. Ouais.
Un début d'histoire dans l'urgence, après il y a le voyage, un peu de course-poursuite, et je trouve que la fin est très poétique. Ça a été construit volontairement comme ça, ou ça s'est fait un peu par hasard ?
Autant les dragons oubliés, j'ai voyagé sur des envies, sur des tracés de route, sur des échanges. En plus, les dragons oubliés, je l'ai créé avec mon co-éditeur, enfin avec mon éditeur. Donc c'est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup d'échanges. Vu que c'est lui qui a fait la dernière écriture, effectivement, il y a eu des raccourcis scénaristiques qui ont été faits, mais que je corrige au fur et à mesure de mes scénarios. Mais là, j'avais vraiment envie, je sais précisément qui je veux rencontrer, où je veux aller, sur tout le récit, en fait, avec, je connais pas toutes les lignes et toutes les routes, mais je connais les chutes, et cette chute-là était prévue depuis le début, en fait. Enfin, pas tout à fait depuis le prévu, elle a été un petit peu déroutée, on va dire, parce que j'ai découvert Percy Fawcett, donc il y a eu un film, la dernière City of Z, grâce à un ami aventurier et scénariste qui tient la collection chez Glénat, qui s'appelle Christian Clos, qui avait fait un album sur Percy Fawcett. Et je voulais, vu que je reviens toujours à Pratt, j'adore Pratt, et je voulais vraiment faire un... Je voulais intégrer l'Eldorado, et de fil en aiguille... Pourquoi je parle de l'Eldorado comme ça ? La chute. Et effectivement, en partant sur Percy Fawcett, toujours en respectant mes dates, parce qu'à cause de mon album où j'ai rencontré Rasputin, j'ai mis une ligne éditoriale dans mon récit. Et effectivement, Percy Fawcett, ça collait pas sur les dates, enfin patati patata, mais en tous les cas... J'avais l'Eldorado et si je voulais en parler, j'étais obligé de m'enfoncer plus bas. Je vais pas vous dire jusqu'où, parce que sinon je vais révéler la fin. Et mécaniquement, c'est devenu une évidence. C'est venu un petit peu au début de mes recherches, et après c'est devenu une évidence. Je savais que l'objectif c'était ça. Du premier voyage.
Non, je regarde la couverture. C'est vrai qu'elle est très très belle, en fait, cette image. C'est une des premières que t'as fait, en fait, de ce nouveau, cette nouvelle trilogie des Wayward Dragons. Et c'est vrai qu'elle est très très belle, cette Amazon qui tient le dragon. Ça faisait partie des images que je voulais aussi qu'il refasse, en fait, d'un personnage humain qui touche une créature fantastique. Tu l'avais fait qu'une seule fois dans les dragons, dans le tout premier, où je ne sais plus exactement le nom du personnage qui touche un dragon dans la grotte.
C'est
en fait.
Le nom du personnage.
Ah si.
C'est le nom du personnage.
Faut pas le dire. C'est un secret. Non, c'est Enirak. Enirak, voilà. Et du coup, de l'avoir refait, mais en plus intime, je trouve ça vraiment très très beau. Et c'est vrai que là, je l'ai regardé, et c'est vrai qu'elle est très très belle, cette couverture. Oui.
En fait, c'était vraiment la représentation de. Sans faire trop de spoil, c'est vrai que dans les dragons oubliés, on n'a jamais vu d'humain en tant que cavalier avec des dragons. C'est toujours bizarre d'humain chevauchant les dragons. Et effectivement, pour moi, parce que j'ai plutôt tendance, et ça s'est vraiment renforcé dans Dragon Oublié, à préférer les sociétés matriarcales que patriarcales, j'ai toujours considéré que l'animal d'aller avec une femme et non pas avec un homme. Et j'ai toujours voulu essayer de trouver une manière de les associer ensemble, et surtout de voir comment est-ce qu'ils pouvaient se guider, communiquer entre eux. Et curieusement, je reviens encore à la mémoire collective et à la rencontre avec l'archéologue cet été, parce que finalement c'est lui qui m'a ouvert la réponse. Enfin, qui m'a donné la réponse, c'est qu'en fait, je voulais qu'elle les recommande, mais sans harnais, sans accrochage, sans aucune violence. Et du coup, j'ai imaginé les bâtons de vent. Et c'est marrant parce que donc j'ai un ami qui fait de la musique. J'ai créé ces bâtons de vent qui sont créés à partir de calebasses, et j'imagine que les Amazones commandent aux dragons juste par le bruit et le vent. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois de plus, Cyril, puisque bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il habitait en fait à côté de la galerie cet été. Enfin, c'était notre voisin de la galerie, donc on se voyait très souvent. Et j'ai terminé les Wild West Dragons à la galerie à Carnac cet été. Et effectivement, il m'a montré ce qu'il fait en démonstration avec les ateliers pour enfants. C'est, je sais plus le nom, normalement c'est aussi utilisé dans différentes tribus. Pour appeler les esprits, c'est un fil qu'on fait tourner avec un... Voilà, et ça fait du bruit. Ça fait un... Voilà. Et du coup, il m'a dit, là, c'est la théorie d'appeler un esprit ou d'appeler une créature fantastique avec un bruit de vent et un bruit sonore. Et voilà, donc on est toujours sur la mémoire collective et ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment envie d'explorer parce qu'il m'a donné des pistes énormes sur le territoire américain là-dessus, en fait.
Il y a toujours une histoire sur la couverture. Alors là, vous avez donné beaucoup d'explications, mais l'idée de base, c'était quoi ? Parce que souvent, il y a une idée de l'auteur. Après, il y a l'éditeur qui repasse derrière. quand il y a un scénariste et un dessinateur, des fois c'est encore plus compliqué. Pour vous, vous étiez déjà parti en fait sur cette idée de couple, si on peut appeler ça comme ça, et après avec la correction de Karine M.
Ouais, Karine a guidé, Karine est ma directrice artistique sur tous les personnages féminins, donc c'est mon éditrice finalement. Et effectivement, ma couverture, je l'ai rêvée depuis longtemps. J'adorais, alors je me rappelle plus le nom, un photographe qui a travaillé récemment, qui a fait un bouquin énorme que Karine m'a offert justement sur les tribus, qui a photographié toutes les tribus en costume traditionnel qui est en train de disparaître sur notre planète. Et alors ça, c'est un mythe, parce que je vais finir par croire, je l'ai rêvé en fait. À l'époque, j'avais vu dans son travail, est-ce que c'est sur une expo, une magnifique femme noire, donc on va dire d'Afrique du Sud, et un cheval noir pris sur un fond noir, et elle était à côté, donc avec des peintures plutôt guerrières, et elle avait la main apaisée sur un cheval à côté, un petit peu cette posture. Donc je l'ai rêvé. Je suis persuadé que cette image, je l'ai vue. Je suis persuadé que c'est lui qui l'a fait, mais j'étais incapable de la retrouver depuis. Mais cette image m'a hanté, en fait, et je voulais refaire la même chose. Associer un personnage ethnique, tribal, sauvage, avec une créature sauvage. Et voilà. Et Karine a terminé après en me disant un petit peu plus de perles, un petit peu plus d'accessoires. Et voilà. Donc, et je voulais ses yeux noirs foncés comme un maquillage ou une tenue à la fois guerrière, mais pas tant que ça. C'est pas des guerrières. Il n'y a pas de guerriers chez moi. Les méchants, ils sont pas là, quoi.
On va vous proposer un chemin, un itinéraire. C'est-à-dire que vous pouvez soit partir deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, soit emprunter le chemin de briques jaunes, soit emprunter la Stairway to Heaven, la Highway to Hell, ou partir vers l'infini et au-delà.
Bon, de toute façon, je l'ai plus en tête, mais la première, c'est évidente, c'est Peter Pan, quoi. Voilà, Neverland. C'est tout.
On vous retrouvera prochainement sur Japan Tour Festival. Ça, c'est 22-24 février. Et sinon, il y a d'autres choses?
Waouh, il y en a plein. Il y a Dessinateur en Normandie. Il y a en mars. Erdeven à côté de chez nous. Donc si jamais il y a des gens du côté de Carnac et Doré ou d'Erdeven, venez nous voir au Festival du Livre d'Erdeven. Il y a Troll et Légende en avril avec exposition Spooky et Blackmore Chronicles ainsi que l'accompagnement de Magoyonde. C'est ce qu'il faut en parler. Ce sont des potes à qui on a fait la couverture.
En fait, qui sont en train de préparer. Et là, sur Ulule, il y a un crowdfunding qui est en cours jusqu'au mi-février, je crois. Et donc, il y a une illustration panoramique avec le groupe qui est représenté, une maison hantée, des créatures. Et ils seront. Le premier concert de leur album sera Troll et Légende. Et même, du coup, l'image, normalement, du CD sera agrandie pour animer la scène, donc ça peut être vraiment très rigolo. Et c'est vraiment sympa, que là c'est le hasard qui fait qu'on les retrouve à troller les gens. Mais ça fait longtemps que Julien de Magoyon voulait travailler avec nous. Et
je pense qu'il y a d'autres choses
que je pense. Ouais, et c'est vrai qu'il est très sympa, et on adore ce qu'il fait, en plus surtout avec son pudding à l'arsenic. Entre autres, là ça nous touche. Et non, c'est vraiment une belle collaboration aussi, ouais, c'est sympa.
Et après avril, après on retourne à la maison, hein, c'est-à-dire on est à côté de la plage à Carnac et on réouvre la galerie, plus grand, plus mieux, et on est prêt à vous accueillir.
Après, les informations sont sur arsenic-et-bouledegomme.com.
Voilà. Et puis j'ai envie de dire bon voyage.